Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, nous sommes le mercredi 23 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fermeture de la fonderie MBF de Saint-Claude. Près de 300 salariés sur le carreau, un gâchis industriel, dénoncent les syndicats. Comment en est-on arrivé là? Reportage et analyse après les autres titres, Agnès.
Le délire paranoïaque d'un couple sur fond de jalousie et de cupidité devant les assises de Loire-Atlantique. Au Pays Basque, les centres de vaccination font le plein grâce aux Espagnols, l'ARS dit stop. Ça y est, les lycéens que nous suivons depuis un mois ont passé le grand oral. Et puis le choc ce soir entre Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, et le trio Mbappé-Griezmann-Benzema.
Les invités du 7-9 aujourd'hui, 7h50 Léa.
L'UEFA a dit non. Elle a interdit à la ville de Munich d'illuminer ce soir le stade de l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBT menacée en Hongrie. L'UEFA estime que le foot, c'est le foot et ne fait pas de politique. Le ministre des Affaires européennes est-il d'accord avec cela? Clément Beaune sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la présidente du Rassemblement National, députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, avec laquelle vous pourrez dialoguer au 01 45 24 7000.
France Inter. Des larmes et beaucoup de colère donc après l'annonce hier après-midi de la liquidation de la fonderie MBF de Saint-Claude dans le Jura. Le tribunal de commerce de Dijon n'a pas retenu l'offre de l'unique repreneur qui n'avait pas le soutien de l'État. Résultat, 270 salariés sur le carreau, près de 300 en comptant les intérimaires. Julien Laurent.
État assassin, voilà ce qui était tagué en rouge sur cette symbolique fourgonnette retournée puis incendiée, notamment par Olivier et Frédéric, parmi les plus remontés des salariés après cette douloureuse annonce.
La colère, là. Le président peut se poser la question, pourquoi j'ai pris une baffe il n'y a pas longtemps? Là, il a une partie de la réponse, c'est de sa faute.
Ça, c'est sa politique. Là, 6 ans que je travaille dans cette entreprise. J'ai fait 700 bornes. La mobilité, je connais, ouais. Hein, vous, les politiques, dites, les Français, on n'est pas assez mobiles. Je l'ai fait, là, cette mobilité. Pour quel résultat? Une fermeture? Vous nous prenez pour qui? On n'est pas vos vaches à lait. Nos impôts, on les paye, c'est pour que vous fassiez le job.
70 ans, s'écroule.
Maria, 20 ans de MBF derrière elle, a même plus la force d'être en colère, les yeux humides et les trémolos dans la voix.
Les anciens sont battus pour cette fonderie. Nous, les jeunes, on se bat. Et puis voilà, le gouvernement nous en poignardait. C'est encore plus douloureux parce qu'on croyait jusqu'au bout, oui. Vous vous rendez compte, à Saint-Claude, ça va être 1200 personnes qui vont impacter. Parce qu'on a quand même plusieurs familles à travailler là-dedans. C'est impensable que le gouvernement nous a lâchés comme ça. C'est inacceptable. J'ai pas de mots.
Dépités et en colère, donc, les désormais ex-salariés de MBF à Saint-Claude qui, rappelons-le, avaient menacé de faire exploser leur usine jurassienne fin mai si jamais elle venait à être liquidée, une usine qui est toujours barricadée par leurs soins à ce jour.
Julien Laurent de France Bleu Besançon. Créé juste après la guerre, la fonderie MBF Aluminium fabrique des carteurs de moteurs et des pièces de boîtes de vitesse. À l'automne dernier, Renault, un de ses 4 clients, a décidé de s'approvisionner ailleurs, précipitant l'entreprise en redressement judiciaire. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Alors pourquoi Renault et les constructeurs français se sont-ils détournés de MBF?
Eh bien, l'usine fabrique, vous l'avez dit, des carters de moteurs et des pièces de boîtes de vitesse. Première chose, on se dit que demain, on en aura toujours besoin. Alors, où les produire? Sans doute à l'étranger. On dit les fonderies françaises moins compétitives, notamment, que leurs voisines européennes. Elles ont surtout été fragilisées par des années de pression sur les prix de la part des constructeurs et n'ont plus les moyens d'investir, selon un représentant de la filière. Dépassé, y compris dans l'aluminium, c'est le discours ambiant. Au moment où le secteur connaît de fortes mutation avec l'électrique, il y a des procédés d'injection qui ont évolué, défend hors micro un cadre chez Renault. Or, l'industrie, celle de ces fonderies, doit s'adapter. 15 000 salariés en France travaillent dans ces établissements de fonte pour la filière auto et un récent rapport du cabinet d'experts Roland Berger estime à 4 à 5 000 les emplois à risque à court terme à horizon 2025. Ce même rapport qui préconise la création de 2 ou 3 champions nationaux pour consolider un marché très éclaté, outil de production trop petit, trop dispersé sur le territoire, disait il y a peu encore Bruno Le Maire, qui avait déclenché il y a quelques semaines un plan d'action avec notamment aide à la reconversion à hauteur de 50 millions d'euros.
Merci Maxime Debs. Et puis en revers pour le gouvernement, le Conseil d'État a suspendu la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur au 1er juillet prochain. Dominique Seux y reviendra dans la chronique Écho tout à l'heure à 8h moins le quart.
Il est 7h05. 5, Agnès, repartir en campagne après les résultats décevants du premier tour.
C'est tout l'enjeu pour le Rassemblement National, arrivé en tête dans une seule région dimanche soir, PACA, et qui a perdu une dizaine de points au niveau national par rapport aux élections régionales de 2015. Mais le mot d'ordre aujourd'hui, Élodie Forêt, c'est la remobilisation.
Ne dites surtout pas à Franck Alizio, conseiller de Marine Le Pen, que le RN est groggy.
Quand on est à 32% de participation, c'est la démocratie qui est groggy. Dans une démocratie, c'est très malsain quand on commence à avoir un petit tiers de la population qui décide pour 100% de la population.
Pour Franck Alizio, aussi porte-parole de Thierry Mariani en PACA, certes les résultats sont décevants, mais ils n'entraînent pas de remise en cause, ni de Marine Le Pen, ni de sa politique. Certains militants sont plus critiques, les gens n'y croient plus, soupire un adhérent de longue date. D'autres accusent la ligne du parti trop dédiabolisée, plus assez transgressive. Alain, militant aixois, n'est pas d'accord.
Je crois que la stratégie qui est employée est la bonne.
Il ne faut pas qu'elle se radicalise pour attirer des gens qui seraient anti-système et qui potentiellement votent moins aujourd'hui pour le RN.
Non. La radicalisation n'est pas, à mes yeux, n'est pas une solution.
L'eurodéputé RN Jérôme Rivière abonde et ironise. Ce ne sont pas les récentes positions de Marine Le Pen sur la Cour européenne des droits de l'homme qui dissuadent nos électeurs. Lui veut désormais attendre la fin du match et fait un pari. Si l'on gagne en PACA, c'est tout ce qu'on retiendra, l'ultime chance de sauver les apparences.
Marine Le Pen, invitée du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Et puis faire barrage au Rassemblement National, c'est la volonté d'Éric Dupond-Moretti qui, dans un tweet ce matin, appelle à voter Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Le ministre de la Justice dit faire la différence entre ses adversaires et ses ennemis. La lente dérive d'un couple vers la folie au cœur des débats hier devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. C'est l'affaire Troidec, cette famille de 4 personnes assassinées près de Nantes en 2017 par le beau-frère Hubert Caoussin qui comparait avec son ex-compagne Lydie Troidec. Et c'est cette femme, effacée de 52 ans, poursuivie pour complicité, qui a témoigné hier. Compte rendu d'audience de Corinne Audouin.
En 2013, Hubert Caoussin est en arrêt de travail. Il ne supporte plus le moindre bruit. Au supermarché, avec la ventilation, il était au bord du malaise, se souvient à la barre son ex-compagne, Lydie Troidec. Dans le plus grand secret, le couple achète en 2015 une ferme isolée en plein Finistère, avec 26 hectares de terrain, un hangar et plusieurs corps d'habitation. Le couple n'investit pourtant que 2 pièces du rez-de-chaussée. À 2 reprises, ils retirent leur fils de l'école. La famille ne sort jamais, ne reçoit personne. Un isolement qui a accru leur mal-être, selon l'avocat d'Hubert Caoussin, maître Thierry Filion.
Je pense que quand on vit des choses trop difficiles, on peut avoir tendance à se replier sur soi. C'est ce qu'ils ont fait ensemble. Ça a certainement contribué d'une part à leur profonde solitude et d'autre part aussi au développement de cette paranoïa. Quand on n'est pas confronté aux autres, à l'altérité, évidemment, on peut interpréter énormément de choses, comme sans doute Hubert Caoussin l'a fait.
Dans ce huis clos étouffant, le couple se persuade que Pascal et Brigitte Troidec les traquent, qu'ils veulent engager un tueur à gages pour éliminer leur fils. Désormais, Lydie Troidec dit ne plus y croire. Hubert Caoussin s'exprimera aujourd'hui.
Un compte rendu d'audience à retrouver sur franceinter.fr.
7h09, quand les ressortissants espagnols se pressent dans les centres de vaccination français.
Et ça se passe au Pays Basque où ces derniers jours, l'afflux de frontaliers est tel que les autorités ont dû refuser les ressortissants espagnols. Enquête signée Mathilde Dehimi.
Les Espagnols ont tous suivi la règle et pris rendez-vous via Doctolib. Ils sont une cinquantaine à se présenter samedi, 70 lundi, quand le centre accueille 500 personnes par jour. Stéphanie Gravet, adjointe au maire et co-responsable du centre de vaccination.
On a eu un bus qui est arrivé de Saint-Sébastien avec une quarantaine de personnes. On a aussi une famille qui venait de Madrid que pour la vaccination. Et on est surtout sur des profils jeunes, puisqu'en Espagne, la stratégie vaccinale vient de s'ouvrir aux plus de 40 ans, là récemment.
Jusqu'à présent, les centres près des frontières avaient rencontré quelques cas dont certains ont pu se faire vacciner, mais jamais un tel afflux lié aux réseaux sociaux espagnols, diffusant le bon plan français sous le titre « Ici, pas besoin de faire la queue et c'est gratuit ». Biarritz a refusé les ressortissants qui se sont présentés lundi. Stéphanie Gravet.
Les ressortissants espagnols qui se présentent ne se feront pas vacciner à Biarritz si ils ne sont pas munis d'une carte vitale de sécurité sociale française. Ou alors il faut qu'ils présentent un justificatif de domicile en France ou attestation employeur ou certificat de travail sur le territoire français.
Biarritz a demandé la marche à suivre à son ARS qui renvoie vers le ministère de la Santé. Il ne s'est pas encore prononcé. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques rappelle de son côté que seuls les résidents dépendants de la sécurité sociale française peuvent se faire vacciner.
Les intempéries avec deux départements en vigilance orange pour des risques d'inondation. Ce matin, il s'agit de l'Orne et de l'Eure. Dans ce contexte, le rapport ce matin des experts du climat de l'ONU est alarmant. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8 heures. La quille pour Léo, ce lycéen de Bois-Colombes que nous suivons depuis près d'un mois dans la préparation de son grand oral avec ses copains. Hier, c'était donc le jour J et Julie Pietri l'attendait à la sortie de l'épreuve.
Un mois qu'il le préparait cet oral, Léo, avec ses copains, dans sa chambre sous les toits, a joué tour à tour le rôle de l'élève ou du prof pour s'entraîner.
C'était stressant, mais c'est passé. Maintenant, on est en vacances, ça fait du bien.
Petit coup de fil à son père.
Alors, j'espère qu'il va répondre.
Oui, mon gars.
Allô, papa, t'es en direct de France Inter, ça va?
Bonjour, France Inter.
Bah, ça va, ça s'est bien déroulé. Bah, malheureusement, je suis pas tombé sur le chlordécone, je suis tombé sur le patrimoine. Mais non, ça va, ça s'est bien passé.
D'accord, tu t'es senti, t'as donné ce que t'as pu donner. Quoi.
Voilà.
Puis à Amine, l'un de ses partenaires de révision qui sera évalué, lui, aujourd'hui.
Ouais, Amine. Non, c'est bon, là, je viens de finir mon épreuve. En vrai, ça va, les preuves sont grave bienveillants.
Ouais.
En vrai, de vrai, on se met vraiment du stress, beaucoup de stress pour rien.
Tu m'as appelé, là, il est en train de travailler, carrément.
Ah ouais? Bon, bah, je te laisse à ta révision, alors, Amine.
Vas-y.
Salut.
Maintenant donc les vacances, un peu studieuses quand même pour Léo, qui a été accepté en prépa littéraire à la rentrée.
Je pense que surtout pendant les vacances, je vais commencer à avancer sur le programme et lire des livres, beaucoup, parce que je sais que l'année prochaine, je vais en lire beaucoup. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire.
Dans quelques temps, il pourra se souvenir qu'il a passé le bac en pleine pandémie mondiale, avec en plus cette épreuve de grand oral, nouvelle, inédite, dont il attend maintenant le résultat, la note, avec impatience.
Le grand oral qui se déroule jusqu'au 2 juillet. Courage donc aux lycéens jusqu'au résultat du bac, le 6. Enfin, les Bleus étant déjà qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro, le match de ce soir pourrait presque compter pour du beurre. Sauf que l'adversaire n'est autre que le Portugal, tombeur de la France en finale de l'Euro 2016 et avec un certain Cristiano Ronaldo. Cédric Guillou.
Un but pour le trio soi-disant magique des Bleus, Mbappé, Benzema, Griezmann. Depuis le début de cet Euro, la réalisation de Griezmann contre la Hongrie. 3 buts pour Cristiano Ronaldo en 2 matchs. À 36 ans, le Portugais est toujours aussi redoutable. Antoine Griezmann.
C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire à 36 ans. Et Cristiano, c'est toujours aussi dominant. C'est complet, il marque du pied gauche, du droit, de la tête. Et il peut montrer, je pense, la voie pour beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes qui sont en centre de formation.
Devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 12 réalisations en 5 phases finales, Cristiano Ronaldo sera le danger numéro 1 ce soir pour les tricolores. Lucas Digne, le défenseur gauche des Bleus.
C'est l'affaire de tous, on va dire, des 4 de derrière, parce qu'il bouge énormément sur la ligne d'attaque. Et c'est de toujours garder un œil sur lui et de toujours bien communiquer, faire attention à pas trop laisser d'espace.
Même s'il explose quasiment tous les records depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo a quand même une faille avec les Bleus. Le quintuple Ballon d'Or n'a jamais marqué contre la France avec sa sélection.
Coup d'envoi de la rencontre ce soir à 21h et dans le même groupe, l'Allemagne affronte la Hongrie.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui sur la PMA pour toutes avant l'heure.